d'avoir rejoint une entreprise qui est capable de faire bouger les lignes d'une consommation plus responsable. Et je trouve que c'est une énorme responsabilité d'être à la tête du Bon Coin, parce que c'est nous aussi qui faisons que le marché de la seconde main croît à plus de 20% par an. Donc on est un acteur qui a vraiment une part de voix importante et qui peut faire bouger les choses pour défendre une économie circulaire. Et je suis extrêmement fière de pouvoir justement agir sur cette partie-là.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. Amandine de Souza, ce nom vous dira peut-être rien comme ça, mais vous allez voir qu'elle fait partie des personnalités fortes de l'écosystème économique et tech français. D'une part parce qu'elle est une femme, DG d'une de nos pépites tech, et c'est malheureusement encore très rare. Ensuite, parce que cette pépite, c'est Le Bon Coin, pas n'importe laquelle. Une love brand, une marque à laquelle les Français sont attachés. On a tous une histoire à partager avec ce site. C'est un de nos gros succès économiques, qui a vu passer pas moins de 75% de la population française sur sa plateforme. Rien que ça, sous ses airs de site simple, avec un design un peu old school parfois, savamment orchestré, Le Bon Coin s'est appelé pendant un temps chez Georgette, passé de site média petites annonces à un des plus gros sites e-commerce, re-commerce, devrais-je dire d'ailleurs, de France, en l'espace de quelques années, cumulant des pics de visites de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs par jour. C'est une scale-up qui compte désormais dans l'écosystème européen parce qu'elle a été rachetée par un groupe, Adevinta, et on lui prête des ambitions assez grandes. On a un grand nombre de choses à creuser, l'orga interne, la culture, les énormes enjeux de mutualisation tech au sein d'un groupe, mais aussi ce que j'appellerais la multispécialisation et la multiconcurrence que son positionnement engendre. Un groupe qui joue un rôle clé dans l'économie circulaire aussi, l'économie responsable et le pouvoir d'achat, qui est en permanente transformation. Et comprendre aussi comment on se renouvelle après 15 ans, comment on fait pour rester au top de son secteur quand on est autant challengé. Petite parenthèse avant de commencer cet épisode. Je voulais vous parler d'une initiative de nos amis de Bouygues Télécom qui ont lancé une série de podcasts qui s'intitule « Les voix de l'Inno ». Ils parlent des technologies capables de révolutionner les télécoms. Il y a un épisode que je vous recommande avec Sandrine Chauvron qui travaille au sein de la direction de l'innovation et qui nous parle du métavers, de sa définition à la mise en application. Un épisode passionnant. Je ferme la parenthèse. Énormément de valeur à en sortir de cet épisode, vous allez voir. Beaucoup de sujets passionnants, vous allez voir, à aborder avec toi, Amandine. Merci de nous accorder ton précieux temps et de passer au micro d'Innovation Leaders.
Merci Geoffrey de me recevoir, je suis ravie d'être là.
Bon, on a un programme assez chargé, on va essayer d'être efficace et d'aborder l'ensemble de ces facettes que j'ai évoquées. Toi, tu es un pur produit du retail, et même si tu es jeune, aujourd'hui tu as connu plusieurs vies professionnelles, tu peux me décrire un peu l'univers dans lequel tu as grandi, j'ai envie de dire avant ta vie pro, et les étapes pro, justement, par lesquels t'es passé avant de rejoindre Le Bon Coin?
Alors moi, je suis grenobloise, donc j'ai eu la chance d'être élevée plutôt au grand air, avec des parents qui étaient disquaires. Donc j'ai été dans le commerce immergée dès mon plus jeune âge. Je passais beaucoup de temps à la boutique de mes parents, et c'était peut-être les prémices déjà du Bon Coin, parce que je voyais les clients qui venaient échanger leurs vinyles à l'époque dans le magasin. Et donc, j'ai toujours été élevée dans la musique. Mes parents écoutaient beaucoup de rock. J'ai eu la chance de faire beaucoup de concerts. Et puis, on a suivi mon père sur Paris. C'est pour ça qu'à l'âge de 12 ans, j'ai rejoint la capitale où j'ai fait mes études. J'ai fait assez classiquement une prépa, puis une école de commerce, le SCP à Paris. Et à l'issue de l'école, j'avais fait plusieurs stages en finance, en marketing. J'avais envie de me laisser le plus de portes ouvertes. Et j'ai rejoint Bain et compagnie, où j'ai fait d'abord un stage de fin d'études. Et puis finalement, j'y suis restée 4 ans et demi. À faire essentiellement, on n'est pas spécialisé quand on est junior, à faire essentiellement des missions de private equity sur des secteurs divers et variés, du tuyau sans soudure à des produits plus grandes conso comme eau écarlate, mais aussi à des missions de grandes conso ou de retail. Après 4 ans et demi, je me suis dit que j'avais envie d'un job opérationnel. J'avais envie de passer de l'autre côté, de mettre en œuvre les décisions et d'aller jusqu'au bout, de les assumer, de gérer des équipes un peu plus larges aussi. et des profils aussi plus diversifiés. Et donc, un peu sans transition, parce que c'est vrai que c'était pas si classique de quitter du conseil pour directement un job opérationnel, j'ai rejoint le groupe Casino, où j'ai dirigé à la centrale d'achat à Croissy-Beaubourg. J'ai quitté la moquette épaisse du 8e arrondissement de Paris, le secteur de la maison, qui était un nouveau secteur autour des arts de la table, de l'électroménager, du linge de maison, qui avait vraiment, qui était en plein développement. Je parle de ça en 2009, avec les premières émissions culinaires où on se recevait chez soi, on se demandait quoi dans la salle de bain. Et donc, il y avait un gros boom autour de ce secteur-là, qui venait de se créer, dont j'ai pris la direction avec une cinquantaine de personnes qui avaient vraiment des profils très différents. Et puis après, assez naturellement, un peu fait barbe à papa, avec le voilà autour du bâton du non alimentaire, j'ai récupéré en plus de la maison les loisirs, donc des secteurs permanents comme le brico ou l'équipement autour, mais aussi beaucoup de secteurs saisonniers, le jouet très dépendant de Noël, la papeterie très dépendant de la rentrée des classes, et puis progressivement l'ensemble du non alimentaire, on ajoute la mode, le prêt-à-porter, et puis l'électronique. Ça a été une aventure assez extraordinaire. J'ai fait mes 12 enfants chez Casino. J'ai été promue à chaque grossesse. J'ai une très bonne expérience dans une entreprise.
On parle de rayon physique là, hein, pas de rayon online.
À l'époque, online, il n'existe rien. On est aux prémices du rapprochement. Quand même, il y a l'asset Cdiscount dans le groupe Casino. Ouais. Avec lesquels on se rapproche pour la partie achat, mais on fait rien online de 2009 à 2015. J'ai une expérience internationale avant de quitter Casino où j'ai géré les bureaux de sourcing à travers le monde, c'est-à-dire quand tu développes des produits à marque de distributeur ou sans marque, en alimentaire ou en non-alimentaire, du linge de maison, des crevettes, c'était assez divers et varié. Il y avait toute la négociation directe avec les usines de production, toute la certification qualité, et puis faire voyager ces produits-là en bateau à travers le monde. Et j'avais envie justement d'une expérience digitale. Il y avait des opportunités certainement chez Cdiscount, mais j'étais pas mobile à Bordeaux. Et donc, je suis partie par réseau gérer un site e-commerce qui avait 3 ans, donc vraiment une entreprise beaucoup plus intrapreneuriale, j'ai envie de dire, parce que c'était quand même déjà existant. Donc, il s'appelle Westwing, qui est un site de vente privée de mobilier décoration, qui était dans l'univers de Rocket Internet, où j'ai géré, moi, la France. C'était mon premier rôle de direction générale, on va dire, avec une partie du produit, du marketing, de la tech qui est centralisée en Allemagne, parce que tous les sites présents dans une dizaine de pays sont les mêmes. En revanche, tout ce qu'on met à l'intérieur du site, l'offre, la négociation achat, un produit très éditorialisé, c'est vraiment une sorte de L-décoration en ligne. Donc des stylistes, de la supply chain, on a notre propre entrepôt, RH, finance, tout ça c'est décentralisé. J'ai la chance de gérer ces équipes et de faire les 3-6 ans de l'entreprise.
Ok, et comment tu te retrouves dans le process de recrutement de Le Bon Coin ?
Alors entre les deux, je gère pendant 5 ans. Après ces 3 ans-là, j'étais super bien, mais par réseau, je rencontre la directrice des ressources humaines des Galeries Lafayette. Et on propose de prendre la direction du BHV, donc grand magasin mythique par son flagship de la rue de Rivoli. Et quand tu fais du retail, j'avais jamais eu les équipes de vente en direct. Et donc, je me dis que c'est génial de pouvoir rejoindre cette aventure-là. J'ai toujours les achats aussi dans mon périmètre, achats maison, brico et loisirs pour le groupe Galerie Lafayette, puisque tu trouves aussi ces secteurs-là aux Galeries Lafayette. Et là, il y a tout le rapprochement qu'on opère avec La Redoute, où on commence à faire des pop-up AMPM ou La Redoute intérieure dans les BHV ou les Galeries Lafayette. Et puis un an après, on me donne aussi en plus la direction de Italie, un concept de food restauration dont les Galeries Lafayette ont la franchise qui ouvre juste derrière le BHV. Et qu'en tant que cliente, moi je connaissais d'Italie et de New York et que j'attendais avec impatience. Donc j'étais super excitée de récupérer aussi cette activité. Assez éloigné du grand magasin finalement, beaucoup plus alimentaire, restauration, mais c'était un peu aussi la start-up dans un plus grand groupe. Après 5 ans, je me retrouve dans le process du Bon Coin par une chasse. C'est un chasseur qui m'appelle fin 2022 pour cette opportunité-là.
Ta carrière, là, que tu décris, elle a beaucoup d'étapes différentes. Et on sent un enthousiasme et une envie d'aller découvrir des sujets que tu connais pas. Je sais pas si c'est coché certaines cases ou pas. Tu as le sentiment de l'avoir drivé et d'être allé chercher les étapes que tu souhaitais, ou tu es aussi hyper attentive aux opportunités, aux rencontres, et c'est finalement ces rencontres qui construisent ta carrière?
Écoute, j'ai eu beaucoup de chance, je trouve, jusqu'à aujourd'hui, parce que je me suis jamais retrouvée dans une situation de chercher un job. C'est pour ça d'ailleurs que quand je suis sollicitée pour un peu des cafés réseaux, je le fais dès que je peux, bien volontiers, parce que j'ai pas connu ça, et j'imagine que parfois ça peut être assez angoissant. Donc j'ai toujours eu une bonne étoile, certainement, et créé peut-être mes opportunités et mes chances, mais de rencontrer des personnes qui m'ont proposé dans mon cycle qui est jusqu'à présent, on va dire, autour de 5 ans, des nouvelles opportunités, avec toujours l'envie, c'est vrai, de me dire, il faut que je puisse m'appuyer sur mon bagage et mon expérience, que cette valeur ajoutée serve à une prochaine aventure. Et à la fois, c'est génial d'avoir plein de choses à découvrir, parce que on passe un tant de temps et d'énergie à essayer de bien faire son taf au boulot, que évidemment, quand on est amené aussi à découvrir encore des nouvelles choses, pour moi, c'est vraiment un moteur d'avoir toujours de la découverte et des nouveaux secteurs à défricher quand j'accepte un nouveau challenge.
Bon, et on sent que c'est pas le hasard qui fait tout ça, mais t'es quand même une personne de premier plan. T'as pas peur de prendre la responsabilité de grandes équipes, de grands projets. On va essayer de découvrir ta personnalité au cours de l'échange. Mais parlons un peu de Le Bon Coin. C'était une marque forcément que tu connaissais. Ça t'a inspiré quoi quand tu sais que t'as été prise à ce rôle-là et que t'as pu rentrer dans ce rôle de DG du Bon Coin?
Quand j'ai été appelée par le chasseur, je t'avoue que j'étais assez surprise, parce que c'est vrai que c'est une boîte beaucoup plus tech que ce que j'ai pu faire. Ce qui se rapproche peut-être le plus, c'est West Wing, où j'ai géré un pure player de l'univers du mobilier, de la décoration, mais qui était finalement, même si la taille ne compte pas tant que ça, je trouve, était beaucoup plus petit, en tout cas d'un niveau de maturité. J'ai fait les 3-6 ans de l'entreprise. Là, je rejoins Le Bon Coin. C'est quand même une marque qui a 17 ans, qui est une love brand installée dans le quotidien des Français et des Françaises. Le BHV, c'était déjà... Ouais, le BHV, c'était déjà une love brand, en tout cas pour les Parisiens. Mais c'est vrai que là, c'est différent. La taille des équipes, en revanche, est assez similaire. Il y a environ 1500 personnes au Bon Coin. Il y avait environ 1500 personnes au BHV. Dans l'ensemble du périmètre que j'ai géré aux Galeries Lafayette. Maintenant, avec des profils, tu imagines bien, complètement différents. Très vendeur dans les magasins niveau BHV. Au Bon Coin, j'ai deux... grande de population. Il y a évidemment le produit et la tech, 670 personnes en France qui travaillent sur la plateforme, et puis des équipes sales qui, elles, vendent aux professionnels tous les produits du Bon Coin.
Ouais, effectivement. Et raconte comment on fait pour prendre un train en marche, parce que 17 ans, c'est quand même une de nos vieilles scale-up françaises, avec une culture qui a eu le temps de s'installer, avec des process qui ont eu le temps de s'installer. C'est un train qui va quand même relativement vite. Comment toi, tu arrives à t'approprier cet environnement en arrivant de l'extérieur, et qu'est-ce que tu as fait pour maîtriser, si c'est tenté qu'on puisse le faire, mais pour t'approprier cette nouvelle boîte?
Écoute, ça fait 7 mois que je suis là, donc j'ai encore beaucoup d'humilité sur beaucoup de sujets. Oui, je suis encore dans le tourbillon. Ce que j'essaie vraiment de faire depuis que je suis arrivée, c'est de rencontrer toutes les équipes très rapidement, d'avoir fait... on a des plateaux de télévendeurs en région, de les avoir tous rencontrés au moins une fois, de passer du temps avec chaque équipe, parce que donc Le Bon Coin, c'est ça qui est génial, c'est qu'à la fois c'est très connu pour la partie, ce qu'on appelle re-commerce, donc le bien de consommation, les produits de seconde main, mais on est aussi leader sur l'immobilier, sur les véhicules d'occasion, et on a un acteur qui compte sur l'emploi et sur la location de vacances. Et à côté de ça, on est une régie publicitaire. Donc évidemment, on a une pluralité d'expertise, de métiers, de savoir-faire, en plus d'être une boîte tech qui est hyper riche. Donc, c'est de passer du temps avec ces équipes-là pour bien comprendre la plateforme, le produit, quelles sont les offres du Bon Coin pour mieux maîtriser en fait aussi comment agir demain pour développer le chiffre d'affaires, améliorer la rentabilité, quels sont les KPI clés dans la boîte. Et puis ce que j'aime faire aussi, c'est assez rapidement rencontrer des clients ou des partenaires potentiels. Moi, j'arrive avec mon background de l'univers du non-alimentaire, mobilier, décoration. Donc, en fait, toute la partie qu'on appelle e-commerce au Bon Coin, c'est quand même là où j'ai le plus d'affinité et où je peux faire venir aussi mon réseau, essayer de le faire venir sur la plateforme. On en reparlera. Mais sur la partie mobilier, véhicule d'occasion, j'y connais rien du tout. Et donc là, c'est justement de passer un maximum de temps avec les équipes et d'être une éponge pour vraiment prendre tout leur savoir et me sentir le plus rapidement possible en zone de confort pour justement bien parler du Bon Coin à l'extérieur, mais aussi maîtriser les leviers sur lesquels on peut jouer pour continuer à accélérer et développer cette entreprise qui a déjà des performances assez extraordinaires, mais où je suis convaincue qu'on a encore tellement de choses à faire.
Ok. Quand t'arrives, toi, c'est toujours l'occasion d'imprimer sa patte et de se poser un peu la question de l'influence que tu vas avoir sur ce groupe-là. Tu as quoi en tête quand t'arrives et t'as envie d'apporter quel type d'influence ou impacter comment le Bon Coin? C'est pas simple parce que c'est une grande entité, mais j'imagine qu'il y a une patte Amandine avec le temps et elle ressemblerait à quoi cette patte managériale que tu penses ou tu veux apporter?
Écoute, en tout cas, j'essaye d'arriver avec mon énergie pour essayer de faire le tour de ces équipes et d'avoir cette compréhension le plus rapidement possible, d'être aussi le meilleur faire-valoir de cette entreprise et de donner à voir ce qu'est le Bon Coin à l'extérieur. Parce que c'est vrai que c'est une boîte qui est à la fois utilisée par un Français sur deux chaque mois. On a entre 27 et 30 millions de visiteurs uniques. Donc, c'est des chiffres qui sont hallucinants. Et puis, en même temps, il y a encore des gens qui ne sont pas actifs sur la plateforme et qu'il faut convaincre de venir notamment à la seconde main. Et donc là, trouver les bons arguments pour les faire venir. Donc, cette énergie et puis l'authenticité de dire voilà ce que je sais, voilà ce que je vous amène, voilà avec mon expérience ce sur quoi je vais pouvoir vous aider, accélérer, ouvrir mon réseau évidemment, et puis voilà ce que je connais pas et où j'ai vraiment besoin de vous pour réussir, en essayant de garder cette proximité, ce qui est pas simple parce que c'est une entreprise qui a grossi très vite, où les équipes maintenant c'est 1500 personnes, donc c'est plus la start-up des débuts qu'Antoine Joutot, mon prédécesseur, a pu connaître il y a 12 ans. Donc, en fait, on inscrit autre chose. Et puis, moi, je rejoins à un moment donné aussi de l'entreprise où on est dans un vrai projet d'internationalisation. En fait, Le Bon Coin, comme tu l'as dit, ça appartient à un groupe qui s'appelle Adevinta, qui est en fait une boîte cotée à Oslo, mais dont on a trois actionnaires principaux. Et de plus en plus, on travaille avec les équivalents du Bon Coin. C'est des marques d'un point de vue utilisateur qui sont complètement différentes, des plateformes d'ailleurs qui sont aujourd'hui différentes, mais qu'on va amener à converger. Et donc, les équipes parlent de plus en plus avec l'ensemble de leurs homologues dans les cinq pays d'Europe où on est présent. Et ça, c'est un vrai shift aussi d'accompagnement des collaborateurs sur aussi les accompagner, les outiller pour qu'ils parlent anglais, qu'ils se sentent à l'aise dans la discussion à l'international, mais aussi commencer à construire des équipes qui soient beaucoup plus internationales, notamment produits et tech. Donc ça, c'est un vrai virage. Et puis, l'autre virage important dans la boîte, où là, je peux apporter un savoir-faire, c'est qu'on était vraiment un média de petite annonce. Donc vraiment, les échanges se faisaient par un contact lié sur la plateforme, mais pas à travers nous. Et récemment, entre particuliers, et maintenant aussi pour les professionnels, on a développé une vraie expérience e-commerce où tu peux payer de façon sécurisée sur la plateforme, tu peux te faire livrer à domicile, en point relais, en casier. Tu as de plus en plus de services proposés pour te convaincre de faire de la seconde main le premier choix. Et ça, c'est un virage qui est finalement très récent dans l'entreprise. Et que je suis capable d'accompagner puisque c'est ce que j'ai vécu quand j'ai lancé BHV.fr au BHV ou quand j'ai géré Westwing.
Ok. Je rajoute deux, trois chiffres que à ce que tu disais, dans les 20 ou 30 millions de visiteurs uniques par mois, il y a 100 millions de transactions par an, 70 millions d'annonces en permanence et un demi-milliard de chiffre d'affaires annuel. Si on prend le premier sujet que tu évoquais, à savoir l'humain, 670 personnes, donc à peu près allez, une petite moitié sur la partie tech et produits. Comment s'organise le reste et comment s'organisent les 1500 personnes?
En fait, j'ai un comité exécutif au niveau de la France où tu as des fonctions assez classiques autour des ressources humaines, de la finance, du marketing, comment on fait rayonner la marque Le Bon Coin pour toujours convaincre des utilisateurs de nous rejoindre ou d'améliorer le repeat business avec eux. Et puis après, j'ai ces fameuses verticales, donc des directions sur l'immobilier, l'automobile, l'emploi, la location de vacances, la partie e-commerce, donc biens de consommation de seconde main, et puis régie publicitaire, où là, j'ai à chaque fois un directeur ou une directrice de chacune de ces catégories. Et puis ensuite, tu as les équipes produits et tech, qui sont, elles, organisées en tribe, en crew, en feature team, avec toujours un binôme. C'est une spécificité du Bon Coin qui fonctionne très bien, où tu as toujours une personne du produit et une personne de la tech, engineer, qui travaillent ensemble sur l'ensemble des projets et sur la roadmap pour s'assurer qu'il y ait le moins de friction possible. Et ça permet de vraiment être tous en train de travailler dans la même direction et d'avoir une culture du delivery qui est super impressionnante. C'est vraiment une boîte qui est d'une efficacité redoutable.
Et qui se traduit comment? Enfin, elle se manifeste comment, cette efficacité-là? Tu as des exemples de choses qui t'ont marqué quand tu es arrivé et où tu te dis, effectivement, là, les mecs sont allés à un niveau assez impressionnant?
Bah, il y a sur la partie data, évidemment, quand t'as 30 millions de visiteurs uniques par mois, t'es capable
d'avoir... T'as un beau bac à sable, t'as un beau terrain.
donc là, t'es vraiment capable de t'amuser. Donc on est un vrai observatoire de tendance et on fait beaucoup d'analyses, soit drivées par nous pour faire émerger des choses qu'on voit sur le site, je sais pas, sur de la consommation en ce moment de cadeaux de Noël de seconde main, où on regarde dans le temps comment les usages se font sur la plateforme, mais aussi, tu vois, chaque semaine on a un compte rendu de tout ce qui a été délivré en nouvelles fonctionnalités sur la plateforme, et c'est hallucinant. En fait, la plateforme bouge sans cesse et à une vitesse assez folle. Donc moi, depuis que je suis arrivée, que ce soit des transporteurs, des moyens de paiement, de l'UX, il y a déjà énormément de choses qui ont été mises en place qui vont vraiment à la vitesse de la lumière par rapport à ce que j'ai pu connaître d'un retailer historique qui essaye de se transformer avec un legacy outils, systèmes, évidemment très différents d'un pure player qui s'est lancé, certes, il y a 17 ans, donc c'est beaucoup pour une boîte tech, mais à la fois, 17 ans, c'est rien du tout quand j'ai géré le BHV qui avait 165 ans.
C'est clair. Ça va être assez amusant de voir ces univers-là et d'en sortir un peu, de voir aussi les avantages et les inconvénients des uns des autres. Chez Le Bon Coin, ce qui est assez frappant, c'est que c'est en fait un ensemble de verticales dont tu parlais qui pourraient être des boîtes à part entière, et certaines sont leaders sur leur marché, mais en même temps, tu dois faire cohabiter et, on va dire, renforcer les singularités et les spécificités de chacune de ces sous-marques ou de ces sous-catégories, tout en ayant aussi en tête des synergies, des mutualisations, et l'idée de trouver de rapprocher ces marques-là qui ont besoin aussi d'être autonomes et d'avoir leur identité à part. À quel niveau se situe justement la limite de l'individualisation ou de la personnalisation, et comment se traduit à quel niveau on mutualise, en fait? Je ne sais pas si ma question était très claire.
Alors, c'est vrai qu'on est un site généraliste. Donc, historiquement, quand on a fait des acquisitions de boîtes, comme on a pu faire avec Avendre à louer pour accélérer sur l'immobilier neuf, ou comme on a fait avec Vite Dressing pour accélérer sur la partie transactionnelle, sur la mode, mais on va dire sur les biens de conso au sens large, on l'a toujours fait, en fait, pour que ça nourrisse la plateforme Le Bon Coin. Donc en fait, on a évidemment récupéré les équipes, leur savoir-faire, toutes les fonctionnalités qu'elles avaient développées, mais pour nourrir la plateforme du Bon Coin et mettre toute notre énergie d'un point de vue branding à faire en sorte que les utilisateurs aillent sur la plateforme du Bon Coin et ensuite les faire cross-seller, naviguer entre les différentes verticales, ce qui fonctionne très bien aujourd'hui parce que sur une échelle temps de 3 mois, 70% des utilisateurs vont aller sur au moins 3 des verticales. Donc il y a vraiment du cross-sell, tu viens un jour pour un vélo, le lendemain pour un appart, le lendemain pour un emploi. Les gens ont l'habitude et de plus en plus ont, sont conscients de l'ampleur de ce qui est fait sur le site. Ce qu'on essaie de faire quand même de plus en plus, c'est de se généraliser, d'être un multispécialiste, c'est-à-dire d'avoir quand même des UX qui soient très particulières dans chacune des verticales, puisque les demandes de nos clients professionnels qui payent pour diffuser sur la plateforme ou des utilisateurs ne sont pas les mêmes sur la location de vacances où tu veux être assuré, pouvoir payer en ligne de façon transactionnelle pour t'assurer qu'il n'y aura pas de fraude et que ton bien va bien être sécurisé quand tu vas arriver pendant les vacances. Ou sur l'automobile, évidemment, très différent d'un produit qui voyage, que tu peux te faire livrer à domicile. Donc, sur l'arborescence, la façon dont tu vas chercher, dont le search va répondre à la pertinence, ça va être vraiment de plus en plus spécialisé par vertical. On a encore, et ça qui est génial quand tu rejoins une boîte finalement récente dans l'univers de ce que je considère le retail, donc vraiment sur la partie e-commerce, c'est que sur la partie qu'on considère nous comme re-commerce, donc bien de consommation, aujourd'hui c'est encore vu comme un tout, alors qu'en fait à l'intérieur c'est très différent, la mode, l'électronique, le jeu vidéo, les loisirs, donc en fait il y a encore beaucoup de choses à faire pour spécialiser encore plus ces parcours-là, et on est encore au tout début de ce category management qu'on est en train de mettre en place avec le bon pourcentage d'offres, comment, même si c'est pas nous qui décidons de ce que nous mettons sur la plateforme, puisque c'est un échange entre particuliers, donc c'est eux qui dirigent, mais après on peut essayer d'orienter, tels produits sont vraiment recherchés, est-ce que vous les avez pas chez vous dans vos placards et est-ce que vous voulez pas vous en débarrasser et les vendre sur le Bon Coin? Et donc, essayer d'influencer comme ça, ou avec l'offre professionnelle sur certaines catégories, par exemple l'électroménager. Évidemment qu'on veut rester la référence de l'échange entre particuliers, mais il y a certaines catégories sur des produits reconditionnés notamment, ou avoir une offre de professionnelle est hyper pertinente. Donc, voilà, avoir le bon équilibre, offre particulier, offre professionnelle, et entre les différentes verticales pour nourrir tous les besoins des Français et des Françaises. Tu l'as dit, c'est pas 100 millions, mais on va dire c'est 68 millions d'annonces qui sont en ligne. Donc, c'est plus d'annonces que de Français et de Françaises en France. Donc, évidemment que tout ce que tu cherches est normalement disponible sur le Bon Coin.
Et quelle est la répartition d'annonces pro et d'annonces particuliers?
Alors, ça dépend vraiment des secteurs. Évidemment, si tu regardes l'immobilier ou l'automobile, ça va être majoritairement de l'offre de professionnels. Quand sur la partie re-commerce, bien de conso, c'est majoritairement de l'offre de particuliers. Okay. Et en fonction des catégories, là encore, ça va être différent et de plus en plus différent avec ces professionnels qui nous rejoignent sur la plateforme.
Ok. Si tu parlais de catégorie management, il y en a une qui m'intéresse particulièrement parce qu'elle est assez dans le vent et elle est dans l'air du temps sur la partie notamment des enjeux environnementaux, mais tout ce qui est revente. Enfin, déjà en règle générale, le Bon Coin coche beaucoup de cases là-dessus, mais je pense aux fringues et notamment à Vinted, qui est un de vos gros concurrents. Ça m'intéresse de comprendre si on prend un peu ce cas-là, de voir comment est-ce que le Bon Coin réagit par rapport à un acteur aussi puissant et aussi rapide qu'est Vinted. Quels sont déjà comment on s'y prend pour concurrencer un acteur comme celui-ci? Est-ce qu'on y va en frontal? Est-ce qu'on y va avec nos propres spécificités, notre positionnement? Et à quoi ressemble ou quels sont les leviers que vous avez pour tenter de rester dans la course d'un marché aussi dynamique et aussi trusté par un acteur comme celui-ci?
Notre unicité, qui est vraiment extrêmement importante, même si je te disais qu'on fait vraiment ce shift d'un média de petite annonce à un e-commerçant, c'est la proximité qu'on a et qu'on met à disposition des Français et des Françaises dans la capacité à trouver le produit autour d'eux. Et donc 80% des échanges aujourd'hui se font encore en face à face. Et ça, c'est vraiment une force qu'en fait aucun e-commerçant peut nous prendre aujourd'hui.
Pour le coup, Vinted, ça n'existe pas, je crois.
Exactement, qui est extrêmement importante. Et évidemment, c'est la priorité, ne serait-ce que pour l'impact pour la planète. Si tu peux aller chercher ton produit à pied chez ton voisin, évidemment que c'est plus bénéfique. À côté de ça, quand Vinted est arrivé, c'est vrai qu'ils avaient un modèle 100% transactionnel, avec des fees payées par l'acheteur. Et donc, ça nous a quand même challengé, questionné sur... Pour convaincre le maximum de personnes à venir à la seconde main, et pour des gens qui ont soit pas le temps d'être chez eux pour réceptionner, enfin accueillir la personne qui vient chercher un produit, ou pas forcément envie de se rencontrer pour certains, ou si le produit il est pas directement dans ta zone de chalandise proche, mais qu'il est à l'autre bout de la France, comment tu offres aussi les bonnes solutions. Donc l'arrivée de Vinted nous a permis quand même de nous remettre en question et d'accélérer très fortement sur cette partie transactionnelle, donc de venir ce e-commerçant en proposant ce paiement sécurisé, cette livraison diversifiée et sécurisée. Donc quand je dis diversifiée, c'est vraiment à domicile, en point relais, avec énormément de réseaux qu'on est en train de développer avec Mondial Relais et avec Shop2Shop de Chronopost pour avoir un maillage en France le plus important possible, mais en lockers sinon. Mais aussi proposer de plus en plus de services d'assurance qui vont arriver sur la plateforme pour te convaincre de venir chez Le Bon Coin pour faire ton choix de seconde main. Okay. L'intérêt qu'il y a sur Le Bon Coin, c'est vraiment d'être pas que mode. Évidemment, on est challengé par des acteurs spécialisés. Nous, on est un multispécialiste. L'avantage qu'on a, c'est de nourrir une part de portefeuille chez nos clients qui est beaucoup plus large. Et donc, les vendeurs, en moyenne, ils vont gagner 260 euros quand ils interagissent avec la plateforme sur différentes catégories. Et un acheteur, il va économiser en moyenne 300 euros. C'est entre 45 et 50% par rapport au prix neuf des produits comparables. Et du coup, on a, parce qu'on a des produits aussi plus chers, parce qu'on est multi-catégorie, on a la capacité aussi à redistribuer ce pouvoir d'achat de façon plus importante pour les utilisateurs du Bon Coin.
Il y a un enjeu quand on commence à se comparer à ces acteurs globaux, c'est l'international. Et là, vous êtes en train de prendre un virage. On parlait brièvement, mais il y a un côté transborder, c'est-à-dire que maintenant vous autorisez des transactions et la livraison, si je ne dis pas de bêtises, au-delà des frontières. Comment ça se traduit, cette internationalisation chez Le Bon Coin, au niveau des services peut-être, mais aussi au niveau du changement culturel et des équipes que tu évoquais tout à l'heure?
En fait, on n'est pas encore en capacité de le faire. Pourquoi? Okay. Parce qu'aujourd'hui, en fait, au sein d'Adevinta, donc tu as Le Bon Coin en France, tu as son équivalent Kleinanzeigen en Allemagne, tu as Milanuncios en Espagne, Subito en Italie, Marktplaats aux Pays-Bas.
On a tous. Le Bon Coin, c'est quand même le leader de l'équipe, non?
Ouais, c'est la plus grosse plateforme. Ouais. Mais on a tous, en fait, on s'est retrouvés au sein du même groupe par rachats successifs. Donc, en fait, c'est des marques utilisateurs qui sont très différentes, et ça restera. Mais aussi, c'est des plateformes qui étaient différentes. Le gros sujet qu'on a en ce moment, c'est de faire converger ces plateformes sur une plateforme unique pour, en fait, arrêter de dupliquer tout ce qu'on fait d'un point de vue produit et tech, où tu as les équipes espagnoles qui développent pour la plateforme espagnole, les équipes françaises historiquement qui développent pour la plateforme française, etc. Donc en fait, on fait les mêmes choses en parallèle au même moment. Et donc pour essayer de pouvoir accélérer et d'aller beaucoup plus finement dans le catégorie management que j'évoquais précédemment, on se dit, on converge d'un point de vue back-office les plateformes sur une plateforme unique, en prenant le meilleur de toutes les plateformes idéalement. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire, et notamment on fait le rapprochement entre la France et l'Allemagne. Donc à horizon été 2024, la France et l'Allemagne seront sur une même plateforme. Pour l'utilisateur du Bon Coin, ce sera pas forcément criant. Il y aura peut-être une UX qui va un peu évoluer, mais il sera toujours dans son écosystème du Bon Coin. Mais quand on sera sur une plateforme unique, évidemment, on pourra offrir du cross-border, puisque les produits, en fait, on pourra appeler des produits de la France ou des produits de l'Allemagne de façon un peu indifférente. On va essayer de nous mettre des critères qui soient pertinents, notamment pour l'impact RSE, c'est-à-dire de si le produit il est à la pertinence quand même proche de chez toi, évidemment qu'on va d'abord essayer de le trouver dans une zone géographique très proche. C'est quand même le savoir-faire du bon coin avant de te le faire venir de Munich si jamais il n'existe pas en France. Mais ça, c'est sûr que ça va enrichir l'offre encore de façon massive. C'est à peu près 20% du chiffre d'affaires de Vinted qui est fait en cross-border. Donc, c'est ce qu'on peut estimer aussi pouvoir faire sur le bon coin à terme.
Ok. Au niveau de ce projet de mutualisation des services, enfin des équipes techniques et des plateformes, vous êtes sur une techno propriétaire, votre propre plateforme, ou vous utilisez un framework d'une e-commerce en package?
Non, tout est in-house. Okay. On travaille avec plein de partenaires, évidemment, sur certaines spécificités, mais la culture du bon coin, et parce qu'on a aussi la chance d'avoir 670 personnes dédiées produits et tech, on a beaucoup de choses qui sont développées in-house.
Ok. Et là, c'est pas vu d'un mauvais œil, ça? On n'a pas l'impression, enfin, les équipes tech n'ont pas l'impression de perdre un peu de leur autonomie et de leur spécificité si on commence à envisager des mutualisations comme celle-là?
Bah, c'est un projet qui est extrêmement ambitieux, donc je pense que c'est quand même excitant de se dire qu'on est en train de construire, une fois là, on commence par France-Allemagne, ensuite on va voir l'Espagne, puis l'Italie et les Pays-Bas qui vont nous rejoindre, de construire la plus grande plateforme de petites annonces et de seconde main d'Europe. Donc c'est un projet qui est extrêmement ambitieux. Et donc non, les équipes, je pense, elles sont évidemment excitées de pouvoir participer à cette aventure. C'est vrai que là, on est plutôt sur des sujets de convergence, un peu moins sur des sujets d'innovation, mais c'est pas l'ensemble des équipes qui sont dédiées à ce projet-là. C'est un très gros projet pour à l'échelle de notre entreprise, mais évidemment qu'à côté, on continue à développer des nouvelles features pour les différentes verticales, à travailler sur des sujets clés, on y reviendra certainement, autour de l'intelligence artificielle, parce que voilà, le monde bouge autour de nous et il faut qu'on bouge à la même vitesse, voire plus vite, et qu'on ne perde pas ce temps d'avance qu'on a toujours eu. Donc non, et puis, je vais dire, au début, oui, il y avait des freins peut-être sur... je connais pas, je sais pas comment ils travaillent, on n'a pas la même culture, on parle pas la même langue, donc d'accompagner les collaborateurs sur faire sauter un peu ces verrous. Et honnêtement, ça peut paraître basique, mais non, ça l'est pas. En fait, au quotidien, tu travailles avec des gens que tu vois qui sont dans le même immeuble que toi. Puis du jour au lendemain, en fait, tu vas parler avec des Espagnols, des Allemands qui sont dans d'autres géographies. Donc ça s'accompagne. Mais ils s'aperçoivent aussi assez rapidement qu'ils ont plein de choses à apprendre des autres plateformes, que les choses sont faites parfois différemment, avec des points de vue différents qui enrichiraient énormément le produit du Bon Coin. Donc en fait, il y a vraiment à gagner à faire ce partage multiculturel. Et une fois que le verrou est passé de cette timidité, ça permet d'accélérer très fort. Et les équipes produits et tech qui sont les premiers à être exposés à ce projet international, en fait, la grande majorité, ils voient un vrai intérêt de monter en compétences et de s'enrichir des compétences des autres pays.
Ok, et devenir un acteur référent, du coup, plutôt européen plus que français, et de changer de dimension.
Exactement.
Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la startup qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E-2-K-I-D-E-N. Bonne écoute!
Un mot sur le business model, parce que quand on a parlé tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des partenaires, il y avait aussi de la notion de média, vous êtes une régie. En fait, quelle est la répartition, je ne sais pas si on peut rentrer dans ce détail-là ou si c'est confidentiel, mais la répartition du chiffre d'affaires à peu près, parce qu'on imagine le Bon Coin comme étant une plateforme e-commerce, mais c'est qu'une partie des revenus. Comment se découpent les différents revenus du Bon Coin?
La majorité des revenus, c'est vraiment les professionnels qui postent leur annonce sur le Bon Coin. Les professionnels de l'IMO, de l'auto, ça c'est les deux plus grandes verticales.
Et ensuite, ils payent le succès ou ils payent vraiment à la publication?
Ouais, c'est des abonnements.
Ok.
Donc, tu as des abonnements qui sont plus ou moins enrichis. Donc, un peu comme tu peux connaître Ivory, Silver, Gold, en fonction du nombre d'annonces que tu as, de comment tu vas booster tes annonces. Donc, c'est-à-dire quelle visibilité tu vas vouloir donner aux annonces et comment elles sortent quand tu fais du search sur la plateforme. Ensuite, tu as une quinzaine de pourcents qui est sur la régie publicitaire. En effet, on est en effet la plus grande régie publicitaire digitale de France. Donc, on est historiquement un acteur du display. On fait un peu du retail media by design. On a toujours eu de la pub sur Le Bon Coin, qu'on essaye évidemment avec le temps, grâce à la data, qu'elle soit de plus en plus pertinente en fonction de qui est sur la plateforme. Et puis, si cette audience du Bon Coin, donc c'est 27 à 30 millions de visiteurs uniques, ce qui est génial quand on regarde la donnée, c'est qu'on sait quand ils déménagent, quand ils ont un enfant, on est capable de vraiment identifier tous les moments de vie sur des segments qui sont importants, puisqu'on a une base de données qui est très forte. On peut cibler des géographies particulières. On est vraiment équiréparti comme la population Internet en France. Et donc, tu peux activer cette audience du Bon Coin en l'extérieur du site, si tu penses que Le Bon Coin est pas forcément le meilleur écrin pour toi, annonceur, et utiliser l'activation de cette audience sur du YouTube, sur du Facebook ou sur du Deezer pour gagner en efficacité et t'assurer que tu cibles vraiment les bonnes personnes. Et on a des très très bons résultats de performance sur cette activation-là. Et puis après, une toute petite partie qui est en train de grossir, c'est la partie C2C, où bah, soit tu payes quand tu veux mettre plus de photos, par exemple, sur des annonces immobilières, soit parce que tu veux plus de visibilité sur ton annonce, soit parce qu'en fait, le produit voyage via nous, donc e-commerçant, et là, tu as 4% de fee pour l'acheteur, lié au fait qu'il utilise du paiement et de la livraison sécurisée.
Ok. Vous avez lancé une offre retail média. Le retail média, c'est vraiment d'offrir un parcours individualisé, enfin avec une communication individualisée, c'est ça? Donc vous vendez à des annonceurs, des utilisateurs et des parcours complets?
Raconte-moi un peu. Ouais, en fait, on va être de plus en plus capable de le faire. Quand je te disais, on est retail media by design, c'est juste qu'on est un média de petite annonce. Donc de fait, si tu veux, quand tu vas chercher un produit, je prends un exemple, mais Ikea sur la plateforme, tu as énormément de produits Ikea de seconde main d'échange entre particuliers. Et puis dans la product list, à un moment donné, tu peux tomber sur une annonce d'un produit neuf Ikea qui te renvoie vers le site Ikea pour trouver le produit si tu l'as pas trouvé, trouver le produit que tu voulais de seconde main. Donc ça, on a toujours fait ça. Là, le virage qu'on est en train de prendre, c'est que de plus en plus, donc on fait monter des professionnels sur la plateforme. Donc historiquement, c'était très manuel, un partenariat avec Auchan ou Boulanger par exemple, à l'échelle du magasin, toujours dans l'ADN du Bon Coin, donc le matériel d'exposition, des produits qui sont légèrement abîmés, des retours e-commerce avec du packaging endommagé. Le magasin d'une certaine ville le met en plus sur Le Bon Coin, et comme ça il va toucher une audience qui est vraiment appétente à ces produits de seconde main parce qu'ils coûtent moins cher et parce que les utilisateurs du Bon Coin sont aussi très sensibles à une consommation plus responsable, et donc ils vont aller chercher le produit près de chez eux dans le boulanger ou le Auchan en question. Donc pour le magasin, ça fait du drive to store, donc c'est génial. Ça, on est en train de l'industrialiser en mettant des agrégateurs de flux sur la plateforme. On a fait un premier partenariat avec Shopping Feed, un deuxième avec Sellermania. On est en train de faire montrer des agrégateurs pour industrialiser cette offre. À partir du moment où on aura beaucoup plus de professionnels sur la plateforme, là, on pourra leur proposer un parcours vraiment one-stop shop de bout en bout, où ils pourront prendre des options d'activation retail média pour faire en sorte d'accélérer la rotation des produits sur la plateforme.
Il y a un élément qui me paraît important, c'est la proximité des utilisateurs et des clients, plus que des utilisateurs. C'est un élément fondamental quand on développe une marketplace et quand on est dans le monde du digital. À votre échelle, avec autant d'utilisateurs, est-ce que c'est une illusion d'être proche de ses clients ou est-ce que c'est une réalité? Et cette proximité, elle passe par de la data et des analyses de comportement que on peut imaginer très fines vu le volume, mais est-ce que vous avez toujours un contact direct avec des clients ou c'est essentiellement de la data?
Alors, nous, on a deux types de clients. Donc, on a les clients professionnels, donc vraiment ceux qui diffusent sur la plateforme, et puis on a les utilisateurs. On s'intéresse évidemment de façon très attentive aux deux. Sur les utilisateurs finaux, tu l'as dit, on a une somme de data qui fait qu'on est une vraie plateforme d'insight, et donc on peut faire des analyses dans tous les sens sur les comportements, sur les secteurs d'activité, et donc là les équipes s'amusent à produire énormément de données qu'on met à disposition de nos partenaires. On a un site qui s'appelle le Bon Observatoire où tu retrouves tous ces insights qu'on sort de façon très régulière. À côté de ça, on a un contact avec le client évidemment par le service client. Donc là, on va vraiment monitorer pourquoi il nous contacte. Évidemment, souvent, c'est pour savoir où est son colis de plus en plus, puisqu'on est devenu un vrai e-commerçant, ou poser des questions, être confronté à des problématiques. Et là, on est très attentif à regarder ça et à mesurer la satisfaction client et à suivre un NPS. C'est vrai que c'est moins, on le fait de façon moins régulière que dans le retail que j'ai pu connaître plus classique où on avait un NPS à la semaine. Mais on va vraiment essayer de garder cette proximité avec les utilisateurs. On a créé ce qu'on appelle la bonne communauté. Donc ça, c'est autour d'utilisateurs qui sont partie prenante et qui veulent nous dédier du temps et nous remonter des insights et nous partager beaucoup de choses sur comment améliorer sans cesse le produit. Et donc là, on leur soumet des idées, des projets, et on les fait réagir. Très souvent, les équipes UI, UX aussi font des enquêtes auprès d'utilisateurs ou de non-utilisateurs ou de clients d'utilisateurs qui sont pas venus sur la plateforme depuis assez longtemps pour faire de la réactivation. Et donc ça, on le fait en fait en permanence pour garder ce lien-là. Et c'est vrai que on n'a pas le client comme moi j'ai pu connaître au BHV où tu descends dans le magasin et tu le croises physiquement tous les jours, mais on a quand même cette proximité qu'on essaie de garder via toutes ces remontées qu'on a de façon continue ou nous qu'on va chercher quand on a besoin de se rassurer sur telle et telle chose. C'est hyper important pour qu'on garde ce lien-là authentique et de proximité avec nos utilisateurs. Et puis pareil avec nos clients, là c'est une démarche un peu différente, mais eux aussi évidemment on les sollicite sur l'enquête de satisfaction pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien sur la plateforme, comment on peut s'améliorer et co-construire avec eux les bons outils qui les aideraient le mieux possible pour gérer la plateforme du bon coin, parce que c'est des vraies sources de revenus pour eux, donc il faut qu'on soit efficace et performant.
Ok. Un mot sur ce que la tech et l'innovation peuvent vous permettre d'envisager. On parle de la mutualisation au sein d'Adevinta qui va donner des leviers intéressants. Est-ce qu'il y a des features sur lesquelles vous bossez aujourd'hui qui pourraient voir le jour là dans les quelques mois ou peut-être quelques années, mais qui sont des sujets un peu game changer pour vous et qui sont qui pourraient être des grosses avancées? Ça ressemblera à quoi ces gros sujets sur lesquels vous pouvez bosser?
Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure, il y a le cross-border sur la partie biens de conso et location de vacances, évidemment, qui va être aussi hyper important pour nous et qui va aussi un peu changer la donne. Sur tous les sujets d'intelligence artificielle, GenAI, évidemment, ça va faire évoluer le produit de façon très importante, en aide pour les développeurs à améliorer leur productivité et à les aider dans la façon de coder, mais aussi pour les utilisateurs où demain, tu prendras une photo et quasiment tout sera rempli de façon automatique pour s'assurer que ta vie soit la plus facile possible. On essaye déjà d'avoir une plateforme la plus simple possible, mais grâce à l'intelligence artificielle, ça va encore s'accélérer. Ou dans le search, tu postes, je prends une photo de ta chemise, je veux la même, et puis apparaissent évidemment toutes les chemises identiques qu'on peut avoir sur la plateforme. Donc ça, c'est des usages qui sont assez simples. Mais je pense que ça va aussi révolutionner la façon dont on travaille au sein de l'entreprise, les équipes de service client, dans la génération de scripts, de réponses beaucoup plus adaptées pour nos vendeurs, pour nos télévendeurs sur les plateformes, en fonction de qui t'appelle, de quel est son parcours, quel est son historique avec le Bon Coin, évidemment. sachant qu'on pourra adapter de façon beaucoup plus personnalisée nos discours et nos échanges vraiment à chaque client individuel. Et ça, on est vraiment en train de travailler dessus. Et je pense qu'on est encore qu'aux prémices de ces sujets-là et au combien ça va révolutionner la façon dont on travaille. Pour des features des exemples un peu plus précis sur la partie biens de conso, par exemple, moi je suis très attachée à voir comment on peut toujours améliorer la durée de vie des produits. Et comment on aide en fait ces cycles de vie de produits. On a beaucoup de marques qui nous sollicitent, d'entreprises, dont le problème c'est le sourcing. Des entreprises par exemple qui font du reconditionnement de gros électroménagers et qui trouvent pas la matière parce qu'en fait les consommateurs, ils ont l'habitude soit de jeter, soit il y a de la reprise quand t'achètes un nouveau produit, donc en fait ils ont pas accès à ces produits-là. Et or nous, on a quand même des produits la plupart du temps qui a une vraie rotation sur la plateforme, mais parfois il y a des produits qui partent moins vite et on pourrait faire une offre de C2B, donc vraiment de consumer au professionnel, qui serait capable de racheter les produits. On le fait déjà sur l'automobile. Tu peux poster ton véhicule d'occasion et décider de accepter ou pas une offre d'un rachat immédiat par un professionnel de l'auto. Je pense qu'il y a des gisements de produits à valoriser sur la partie biens de conso qui ne le sont pas aujourd'hui et qui pourraient être remis après du reconditionnement dans le commerce.
Est-ce que vous vendez des analyses de comportement ou des tendances de consommation, des tendances de recherche à des marques qui pourraient s'inspirer du volume que vous avez pour essayer de capter des tendances de consommation ?
Écoute, on vend pas, on met vraiment à disposition ces insights-là. Okay. On est sollicité même par le gouvernement de temps en temps qui se pose des questions. Comme on a la chance d'avoir cet observatoire
un bon échantillon français.
Ouais. C'est un échantillon à l'échelle de la France, quasiment équiréparti par géographie, par genre, par âge, par CSP. Et donc, on est capable vraiment de... On a déjà été sollicité pour étudier de façon plus précise comment les hausses de loyers se faisaient en fonction des différentes géographies. Et donc, toute cette donnée-là, on la met à disposition de nos partenaires. Soit nous, on est proactifs dans les insights qu'on génère, soit à la demande de nos partenaires, justement.
Ça montre et ça pointe du doigt le rôle sociétal du Bon Coin, je trouve, parce que vous êtes pas qu'une boîte tech avec un objectif de faire du chiffre d'affaires, parce que vous avez quand même vous êtes un baromètre de pas mal de sujets. Vous avez une influence par rapport à le volume d'activité que vous avez. Vous êtes au carrefour de beaucoup de sujets dans l'environnement, justement à la baisse de la consommation ou à la reconsommation. Il y a l'économie circulaire, le pouvoir d'achat, et aussi la nature des objets et des annonces et des ventes que vous faites. Ça m'interroge sur le côté la gestion de l'éthique et aussi de la politique, parce que accessoirement, il y a éthique et politique, c'est deux aspects différents. Comment est-ce que c'est adressé chez vous ? Je pense à l'éthique vis-à-vis du consommateur et de l'exploitation de ces données, ou à l'éthique aussi de la nature des offres et des produits que vous acceptez, plus cette dimension politique. Voilà, comment vous gérez ça ?
Ouais, écoute, alors nous, évidemment, je pense comme beaucoup d'acteurs sur le marché, on essaie au maximum de respecter l'ensemble des règles autour de la donnée personnelle. Quand on est un acteur comme Le Bon Coin, on est à la fois suivi par la CNIL, la DGCCRF, l'ARCOM. Donc en fait, il faut qu'on soit conforme sur tous ces sujets-là, évidemment. La priorité vraiment au quotidien pour les équipes, c'est la sécurité de l'utilisateur sur la plateforme et faire en sorte qu'il soit dans un univers le plus sécurisé possible. On a énormément travaillé sur la partie modération, pour s'assurer qu'on a une politique de modération. Donc nous, on a un statut d'hébergeur. Donc toutes les annonces, on est entre 500 000 et 800 000 nouvelles annonces qui sont déposées par jour. Elles sont toutes vérifiées par des algorithmes qui va en fonction de nos critères d'acceptation de modération. Il y a des produits évidemment interdits qu'on n'a pas le droit d'avoir sur la plateforme, donc on va vraiment faire le tri dans tout ça. Si jamais il arrive qu'il y ait un produit qui soit, je sais pas, on se pose une question litigieux, on peut faire un signalement en tant qu'utilisateur et à ce moment-là, évidemment, on va regarder pour enlever le produit directement. Et ces signalements sont aussi des façons d'encore entraîner mieux nos algorithmes pour être les plus performants possibles. Ensuite, on a énormément travaillé tous les sujets de fraude pour authentifier les comptes, vérifier le numéro de téléphone, s'assurer que dans la messagerie, de façon proactive, si on trouve qu'il y a des comportements suspects, on prévienne les utilisateurs. On fait aussi beaucoup de pédagogie, d'envoyer des emails à l'ensemble des utilisateurs pour que vraiment ils restent au maximum sur la plateforme. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on souhaite pas que les utilisateurs s'échangent les numéros de téléphone. Plutôt évidemment pas pour que ça nous échappe, mais pour pas qu'il y ait du phishing ou de la fraude qui soit faite et que le maximum de l'interaction se passe au sein de la plateforme pour qu'elle soit complètement sécurisée. Et on verrouille. Après, quand on a un acteur comme Le Bon Coin, évidemment que les fraudeurs ne sont pas sans créativité pour essayer de rentrer partout les subtilités possibles. Et donc, on a des équipes qui sont vraiment dédiées à ça pour sécuriser au maximum la plateforme. Et c'est vraiment notre priorité de faire en sorte que ce soit le plus clean possible.
Impressionnant, et ça doit être assez fascinant de comprendre comment ils bossent et de voir la créativité effectivement des je sais pas comment on les appelle, mais des arnaqueurs, et de en tant que client on voit leur créativité. J'imagine qu'à votre niveau ça doit être assez fascinant de le comprendre et d'essayer de le traiter. En parlant des enjeux du moment chez Le Bon Coin, il y a quand même un sujet important qu'on a évoqué dans la presse récemment. En tout cas, on annonce la possibilité de revente de Le Bon Coin. Je ne sais pas d'ailleurs si on parle de Le Bon Coin ou de tout Adevinta qui pourrait être vendu.
En fait, c'est Adevinta. Donc, Adevinta, on est historiquement le Bon Coin, ça a été cofondé par des Français et des Norvégiens, Schibsted, qui était vraiment un groupe de presse. Sur une techno qui était suédoise d'ailleurs, et puis progressivement en fait il y a eu un spin-off de ce groupe Schibsted en 2019 qui ont créé Adevinta et qui a été coté à la bourse d'Oslo, et puis en 2021 on a racheté la partie petite annonce d'IB. C'est là où on a plus de doubler la taille de l'entreprise, et on a récupéré des actifs comme Kleinanzeigen en Allemagne par exemple. Et c'est ce groupe-là qui aujourd'hui est coté, dans lequel il y a eu une offre qui a été faite d'un de nos actionnaires avec un consortium de fonds de private equity, donc Permira, Blackstone et d'autres, pour racheter l'entreprise. Là, c'est en cours, donc en fait, j'ai pas plus d'informations. Il y a encore beaucoup de conditions pour s'assurer que le deal se fasse, mais en tout cas, ils ont fait une offre ferme de rachat de l'entreprise.
Et comment tu les vis, toi, ces possibles changements à titre perso ?
Écoute, moi, je viens d'arriver il y a 7 mois, donc je prends toujours, en fait, de toute façon, c'est aussi ma mentalité. Je suis de nature très optimiste, donc je me dis, ça va être aussi des nouvelles opportunités de voir comment ils veulent investir dans l'entreprise. Moi, je suis convaincue que s'ils t'intéressent au projet, ils s'intéressent à la vision qu'on porte, à notre stratégie, à notre management, et qu'il y a de la création de valeur avec tout ce qu'on propose au niveau du Bon Coin, mais au niveau d'Adevinta plus largement. Et donc, voilà, pour l'instant, je suis dans l'attente déjà de savoir si ça va se faire, et après, dans l'excitation de se dire c'est une nouvelle aventure qui va s'ouvrir. Et c'est vrai que moi, étant là depuis 7 mois, j'ai pas l'antériorité que peuvent avoir d'autres collaborateurs de la boîte.
Bon, t'es encore dans une phase de gros changement, donc ça sera un de plus. Au niveau de la culture de la boîte, ça m'intéresse de le creuser, parce qu'on peut pas parler de Le Bon Coin sans parler de sa culture interne, qui a sûrement évolué avec le temps. Moi, je me souviens d'années un peu folles, de soirées un peu folles dans les très belles années.
On est très connus pour nos soirées.
Oui, voilà.
Ouais, mais j'en ai fait encore récemment une soirée client qui était très très sympa.
Bon, et cette culture, elle peut être clivante, visiblement avec toi, elle a marché assez rapidement. Mais comment tu la décrirais, cette culture ? Et est-ce que tu as des illustrations qui, selon toi, sont un peu des marqueurs de cette culture Le Bon Coin ?
Écoute, il y a des Toutes les boîtes ont une culture, des valeurs. Souvent, on te dit, enfin, moi, je sais pas, souvent, on dit cette boîte, elle a une culture hyper forte. C'est vrai que, au Bon Coin, les collaborateurs, ils ont les valeurs chevillées au corps de proximité, pragmatisme, engagement et créativité, pour lesquelles c'est vraiment hyper important. Et moi, ce qui m'a marqué quand j'ai rejoint le Bon Coin, c'est que la boîte, elle a beau rassembler 1500 collaborateurs, elle est toujours dans une proximité, un authentisme, une transparence, un niveau d'échange qui est plus proche de la jeune start-up que de l'entreprise qui a 17 ans. Et ça, c'est hallucinant. Ça se matérialise comment ? Tout le monde parle à tout le monde de la même manière. Tous les sujets peuvent être abordés. Il y a pas de tabou. Il y a une vraie volonté collective d'avancer dans le même sens. C'est une boîte qui est très peu politique et donc qui est vraiment, je trouve, impressionnante d'avoir réussi à garder ses valeurs d'agilité, d'entrepreneur, alors même que c'est une boîte qui a beaucoup grossi, qui s'est beaucoup transformée et qui, là, est en pleine transformation. Et donc, dans les enjeux du moment, c'est vraiment de s'assurer que ces valeurs-là, les valeurs du Bon Coin, qui sont relativement communes avec les valeurs des autres plateformes d'Adevinta, elles soient préservées et qu'on garde à l'échelle d'une internationalisation européenne toujours cette proximité et ce pragmatisme. Et c'est pas facile parce que, évidemment, quand tu verticalises une organisation, quand tu es amené à travailler avec des personnes qui sont dans différents bureaux, dans différentes géographies, garder cette valeur de proximité, c'est un travail de tous les jours. Et je pense que c'est notre responsabilité collective, des managers, mais même de l'ensemble des collaborateurs, de travailler à ça au quotidien dans nos modes de fonctionnement.
Ok, ça passe par un process de recrutement particulier et l'identification de soft skills à l'entrée ou finalement pas spécialement et c'est à l'intérieur que cet esprit-là est.
Si, c'est sûr que tu as un côté cooptation quand même de profils qui ont de personnes qui ont des valeurs qui soient compatibles. Honnêtement, c'est un terme qui a été complètement galvaudé, mais c'est une boîte qui est super bienveillante. Et dans lequel on va et vraiment faire attention de prendre des personnes qui voilà, t'es pas forcément d'accord tout le temps. Évidemment, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des moments qui soient difficiles à gérer, mais de le faire dans un respect, une politesse, un cadre sécurisé qui soit valable pour tout le monde. Et ça, c'est des choses qu'on vérifie aussi dans la partie soft skills des personnes qu'on recrute. C'est extrêmement important.
Et en parlant de recrutement, tu m'avais dit il y a pas longtemps que vous aviez des postes à pourvoir. Ça ressemble à quoi les postes que vous avez d'ouvert aujourd'hui et sur lesquels vous êtes un peu, que vous êtes impatient de rencontrer, parce qu'il y a certains postes qui sont plus ou moins faciles à pourvoir.
Écoute, on a une centaine de postes ouverts en ce moment, donc sur nos deux jambes. La première, c'est vraiment produit et tech, où là, on cherche des profils divers et variés de côté produit et côté ingénieur. Et puis la deuxième jambe, c'est sur la partie sales, où on cherche aussi bien des télévendeurs sur nos différents plateaux en région, des vendeurs sur le terrain, ce qu'on appelle les field sales, essentiellement pour la verticale immobilier, ou des sur la partie grand compte à Paris. Et c'est des profils en fait qui sont pas toujours faciles à trouver en fonction de la géographie dans laquelle on propose le job, ou parce que c'est encore bataillé sur la partie produit et tech de trouver les bons profils en ce moment, malgré tout ce qu'on peut entendre. On a encore de très beaux postes à pourvoir au Bon Coin, et donc on serait ravis à l'issue de ce podcast de recevoir plein de candidatures.
Et d'ailleurs,
FR
on parlait.
En recrutement.
C'est quoi l'adresse, tu dis?
Je crois que c'est fr.recrutement leboncoin.fr. Je te redonnerai ça.
Ouais, on remettra ça en commentaire. Tu m'avais dit la dernière fois que le sujet du remote était un sujet un peu touchy. Vous avez quelle politique remote? Est-ce que vous suivez Elon Musk qui dit à tout le monde de revenir au bureau parce que ça, l'économie se tend, ou comment est-ce que vous l'abordez en tout cas ce sujet, vous?
Écoute, moi je trouve qu'on est plutôt très flexible. Après, tu auras toujours des gens pour te dire que
pour être meilleur que toi ou pour être
voilà,
critique,
pour prôner le full remote. On a une politique de télétravail qui s'adapte vraiment aux différentes équipes. C'est pas homogénéisé dans l'ensemble de la boîte.
Okay.
La plupart des équipes ont le droit à 3 jours de télétravail par semaine. Mais les équipes produits et tech, par exemple, elles doivent être présentes 2 jours par quinzaine. Donc, on a vraiment une très grande flexibilité. Après, il y a des rendez-vous importants où on est convaincu, aussi pour faire vivre ces valeurs de proximité, qu'il faut que les équipes se rencontrent et se voient physiquement, que ce soit d'ailleurs en France ou avec les autres géographies. Donc, on voyage aussi un peu, on essaye de limiter pour l'impact environnemental, mais de temps en temps, c'est aussi important que les équipes allemandes, espagnoles et françaises se retrouvent au même endroit pour avancer. Et c'est vrai qu'en physique, on s'aperçoit qu'on arrive à lever des freins de façon beaucoup plus rapide.
Bon, cool. On parle de toi maintenant, c'est pas toujours peut-être pas la partie la plus simple pour toi, mais c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi depuis ce démarrage chez Le Bon Coin ?
Écoute, je dirais la gestion du temps. Je voudrais que mes journées fassent 48 heures pour adresser tous les sujets, bien faire le job en interne, en externe, avec voilà les différentes tables rondes ou prises de parole que je peux avoir aussi pour donner à voir qui est Le Bon Coin et le représenter, passer du temps avec les clients professionnels, les partenaires éventuels pour coopérer sur la plateforme. J'y arrive pas pour l'instant comme je voudrais. Donc je trouve que c'est ça qui est le plus difficile, à la fois le plus excitant. Et puis moi, je me suis dit, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai un peu, tant qu'on n'a pas fait une année, je trouve, un vrai cycle dans une entreprise, d'avoir vécu le process budgétaire, les process roadmap, la définition des objectifs annuels, une rentrée, un Noël. Évidemment, on n'a pas ces marques. Donc, j'accepte d'être un peu submergée et de ne pas bien maîtriser mon agenda pendant un an. Et puis après, d'être un peu plus drastique dans la façon dont, en tout cas c'est mon souhait, dont je gérais mon agenda.
Est-ce que tu as découvert des choses auxquelles tu ne t'attendais pas ?
Bah, ô combien Le Bon Coin est une boîte tech. C'est vrai que c'est quand on n'est pas dedans et que on vient du retail, je pense que c'est complètement sous-estimé de toutes ces personnes qui font évoluer la plateforme, produisent des nouvelles fonctionnalités chaque jour, et la pluralité des propositions qu'on a sur le site. Par la richesse des catégories qu'on propose, hein. On a 75 catégories, donc évidemment c'est très très large. À la fois on a beaucoup de concurrence, il y a des acteurs tous les jours qui proposent sur la partie e-commerce des offres de seconde main, que ce soit des marques ou des retailers, et à la fois on est complètement unique parce que même un acteur américain ne propose pas de l'emploi, de la location de vacances, de l'IMO, du e-commerce. Donc on a vraiment un positionnement atypique. Et puis de l'autre côté, ces équipes de télévendeurs internalisés, qui sont vraiment une vraie valeur du Bon Coin, qui sont des équipes donc sur différents plateaux, à Mâcon, à Montceau-les-Mines et à Reims, qui toute la journée appellent les professionnels des différentes verticales pour leur proposer les offres du Bon Coin. Et voilà, ils font ça par téléphone. Moi, je suis hyper admirative. Quand tu vas les voir, il y a une émulation de dingue avec, évidemment, ils sont drivés par l'atteinte d'objectifs. Ils sont tous présents dans les locaux et ça donne une énergie de dingue. Et ça, c'est vraiment un savoir-faire exceptionnel qu'on a au Bon Coin, voilà, et qui est une richesse qu'on peut pas nous enlever et qui fait vraiment, je pense, notre différence par rapport à d'autres boîtes.
Bon, entre l'Amandine des débuts de carrière et aujourd'hui, il y a quand même un gap énorme. Comment tu t'y es pris à titre perso pour te transformer entre guillemets, pour évoluer et faire en sorte d'être capable de gérer les environnements que tu gères avec les problématiques politiques, techniques, humaines, managériales que tu gères? Comment on s'y prend pour évoluer sur le plan des soft skills et des hard skills pour arriver à ce genre de poste et de niveau ?
Bah, je pense que déjà, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est vraiment beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrive dans un nouvel environnement, je sais ce que je sais, je sais ce que je sais pas. Et quand je sais pas, d'avoir autour de toi des personnes plus fortes que toi et d'accepter ça, évidemment, et même de pousser ça, qui sont des personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer. Et voilà, de plutôt être à l'américaine, de chacun a ses forces et unir les forces de tout le monde. Évidemment, je peux pas m'empêcher de travailler sur mes angles morts, mais voilà, plutôt faire en sorte d'avoir autour de moi, dans le recrutement que je vais faire de mon comité de direction, de mon comité exécutif, de forces qui sont complémentaires aux miennes, d'expertise complémentaire aux miennes, ça c'est hyper important. Je pense que la clé de la réussite, elle est évidemment pas personnelle, c'est l'équipe avant tout, et c'est la composition de l'équipe que tu as pour réussir. De continuer à se former, il y a plein de choses qui évoluent, et je pense que de plus en plus on va être dans une culture de formation continue apprenante tellement le monde va vite autour de soi. Donc moi je suis hyper curieuse, je participe à plein de colloques sur je sais pas la Gen AI par exemple, pour regarder qui sont les acteurs, comment ils font, comment ça fonctionne. Évidemment en interne il y a aussi beaucoup de compétences sur lesquelles je peux m'appuyer, mais d'avoir ces chakras ouverts. Et puis après, moi, ce qui m'a vraiment aidée, qui est mon driver et dans lequel je consacre beaucoup de temps, qui est pas forcément dans la culture française, mais c'est mon réseau personnel. En fait, avec une amie, on a fondé un réseau de femmes dirigeantes dans le retail. J'ai rejoint Leia Capital, un fonds de business angel de femmes où on est 29 pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Et tout ça, c'est un peu side business par rapport à mon activité du Bon Coin. Mais c'est des cercles où j'ai des pairs sur lesquels je peux faire du ping-pong sur certains sujets, à la fois avoir le détachement, on partage rien de confidentiel de nos entreprises, mais on a quand même toutes à peu près confrontées à des mêmes problématiques, et où on a une liberté d'expression et sur lesquels on échange et qui, moi, me nourrissent énormément. Donc, c'est toujours quelque chose sur lequel j'ai beaucoup investi et qui est, voilà, pour moi, la façon de continuer à progresser, c'est de me confronter à d'autres points de vue, de prendre le maximum de conseils de mon réseau qui est éclectique, donc pas que des gens qui me ressemblent et qui réfléchissent comme moi, pour voilà, toujours me challenger, me remettre en question et me faire progresser à titre personnel et faire progresser l'entreprise que je dirige.
T'es très sensible à la cause féminine. D'ailleurs, on le voit par ces organisations auxquelles tu participes et que parfois tu crées. Ça te vient d'où, cette sensibilité féministe, et elle se traduit comment dans ta vie?
Écoute, c'est pas parce que j'ai vécu à titre personnel. Moi, j'ai toujours été plutôt portée par des hommes, dont les managers que j'ai eus et dont ceux qui ont fait aussi ce que je suis aujourd'hui dans les différentes promotions, par exemple, que j'ai pu avoir, même dans des univers plus plus masculin, plus dur, comme casino ou le retail alimentaire. Évidemment, c'est connu pour être un peu plus âpre. Mais c'est l'amour des chiffres et les statistiques qui sont imparables sur le sujet. Quand tu vois que seulement 2% des investissements vont à des femmes solo founders, ou founder femme, 15% si c'est des founders hommes-femmes et que tout le reste va à des founders hommes, soit ça met en exergue qu'il n'y a pas assez de femmes qui entreprennent, et donc pourquoi on en arrive là? Qu'est-ce qui fait que dans un monde où finalement même il y a un peu plus de femmes que d'hommes sur la planète, on se retrouve à avoir si peu de femmes entrepreneurs? Ou alors, s'il y a toutes ces femmes entrepreneurs, pourquoi elles sont peu suivies par des fonds, peu aidées, peu accompagnées? Qu'est-ce qui leur manque? Et donc là, c'est par exemple pour cela que j'ai rejoint Leia Capital. Leia Capital, c'est un fonds de BA, donc c'est notre argent personnel qu'on a mis en commun. On a des petits tickets, donc évidemment c'est pas nous qui portons le gros du projet. On met entre 50 et 100 000 euros sur des produits, sur des startups vraiment early stage, adossés évidemment à des fonds de VC ou à des BA beaucoup beaucoup plus gros. Mais on est le petit coup de boost qui va aider les femmes aussi. On va, en fonction des besoins qu'elles ont, leur ouvrir notre réseau, les aider sur certaines compétences particulières, puisque ces 29 femmes, elles sont d'univers complètement différents. On a des femmes qui sont dans des fonds de private equity, on a des avocates, on a des femmes venant de différents univers business, et donc on va essayer de les accompagner au mieux pour qu'elles réussissent. Franchement, je me suis prise au jeu de faire ces due deals sur des secteurs d'activité complètement différents de ce que peut être le Bon Coin ou même le retail au sens large, et je trouve ça vraiment génial. Dans l'entreprise, c'est pareil. Fondamentalement, on serait toutes ravies de pas avoir besoin de quotas pour aider à ce qu'il y ait plus de parité dans les conseils d'administration, dans les comités exécutifs, mais force est de constater qu'on a besoin de ça pour avancer. Et moi, je me dis qu'à mon échelle, je peux peut-être essayer soit d'en inspirer certaines, soit de faire bouger les lignes. C'est pour ça que je suis sponsor de Elles sont le Bon Coin, qui est l'initiative de réseau de femmes chez le Bon Coin, et d'essayer au maximum de les aider pour avoir plus de femmes dans la tech, donner aux jeunes filles l'envie de faire plus d'études scientifiques et de mathématiques. Et voilà, et si c'est des petites graines qu'on plante à différents endroits pour essayer de faire bouger le monde et d'avoir plus de mixité, parce que moi je suis vraiment convaincue qu'un monde de diversité est beaucoup plus performant et beaucoup plus sympa aussi que des choses monolithiques.
Est-ce que tu en as d'autres, des combats comme ça ?
Bah, écoute, dans l'entreprise, en tout cas, on a des ERG, là, des Employee Resource Group, autour de tout ce qui est diversité, équité, inclusion, que moi j'appelle Pride, mais c'est dans mon jargon à moi, de pousser aussi cette diversité-là. Autour du handicap aussi, on a des initiatives qui sont très importantes. Il y a le handicap qu'on voit et puis tous ceux qu'on voit pas. Et même ne serait-ce que sur la plateforme, l'accessibilité, c'est des sujets qui sont importants à travailler. Et donc ça, bah, j'essaye, dans la position dans laquelle je suis, de donner des moyens, déjà financiers, de faire vivre ces ERG, et puis voilà, de donner de la visibilité sur toutes les actions qui sont faites et qui sont super importantes pour moi, et qui, dans des boîtes tech, je trouve, ont encore plus d'écho que, aussi parce que c'est certainement des sujets qui sont pris de façon beaucoup plus importante et prioritaire par les collaborateurs, mais dans lequel on a une vraie caisse de résonance pour engager les collaborateurs en interne.
Bon, et en ça, tu fitais bien avec la culture du Bon Coin, qui est quand même assez sensible à ces thématiques-là, en règle générale. Merci pour ces partages. On reste dans le perso, mais aux questions un peu plus rapides pour cette dernière partie. Je voulais te demander s'il y avait une chose dont quelle était la chose dont tu étais le plus fier aujourd'hui?
Bah écoute, naturellement, je te dirais déjà mes deux enfants de 10 et 12 ans et qui m'ont l'air d'être, au-delà en bonne santé, assez épanouis. Et puis, à titre personnel, d'avoir rejoint une entreprise qui est capable de faire bouger les lignes d'une consommation plus responsable. Et je trouve que c'est une énorme responsabilité d'être à la tête du Bon Coin, parce que c'est nous aussi qui faisons que le marché de la seconde main croît à plus de 20% par an. Donc on est un acteur qui a vraiment une part de voix importante et qui peut faire bouger les choses pour défendre une économie circulaire. Et je suis extrêmement fière de pouvoir justement agir sur cette partie-là.
Ouais. T'es maman, tu le disais, et DG du Bon Coin, équilibre vie pro, vie perso, quand on a la carrière que tu as et l'engagement que tu as sur les différents fronts, c'est un rêve ou c'est une réalité?
Écoute, en tout cas, là, tout de suite, c'est plutôt un mythe, parce que, évidemment, ça fait 7 mois que j'ai rejoint le Bon Coin, donc c'est encore récent. Je pense qu'il y a toujours des périodes, c'est-à-dire, évidemment, de beaucoup s'écouter et d'avoir des temps qualitatif, que ce soit pour tes enfants, pour ta moitié, mais aussi pour moi, pour mon réseau, on en a parlé, pour mes amis, on a une vie très sociale avec mon conjoint, et c'est hyper important pour nous de pouvoir aussi avoir ces temps-là qui nous nourrissent énormément. Et moi, je suis très perméable entre la vie pro, la vie perso, mais ça, c'est très personnel, et c'est à chacun de vivre comme ils le sont. Évidemment que je suis pour la déconnexion des équipes et je suis vigilante quand j'écris ou quand je réponds à mes mails à 23 heures qu'ils ne partent que le lendemain à 9 heures pour respecter la vie des autres. Mais voilà, moi j'ai cette perméabilité de rebosser un week-end, de rebosser le soir la semaine. C'est pas des choses qui me dérangent tant que je suis justement libre de pouvoir par ailleurs gérer mon emploi du temps comme je veux. Et j'ai cette chance là quand tu diriges une boîte d'être aussi plus souple sur ton emploi du temps. Et je sais voilà la chance que j'ai à ce sujet. Donc voilà.
T'as des outils ou des apps au quotidien qui t'aident à être plus efficace, mieux organisé?
Pas forcément plus efficace, à part CityMapper, pour me repérer dans Paris. Non, mais écoute, je commence à utiliser de plus en plus aussi pour certaines tâches. On a notre ChatGPT interne qu'on a développé. Okay. qui a le doux petit nom de Ada, et que je vais utiliser pour certaines tâches à faire et gagner du temps et de la productivité. Je suis assez addict à ma Garmin. J'ai une montre connectée qui suit mon sommeil, mon sport, et je regarde régulièrement. Quand des fois j'ai un coup de mou, je me dis attends, mais c'est quoi les stats de sommeil là déjà? Ah ouais, non, là ça va pas du tout. Il faut que je me couche tôt ce soir. Après, on est très au sein de la boîte, on utilise Slack, qui évidemment est un outil qui permet, qu'il faut savoir maîtriser, hein, parce que sinon tu peux te faire submerger aussi par les différentes chaînes, mais aussi qui permet sur certains sujets une certaine réactivité, qui fait que les sujets peuvent être traités de façon plus rapide que des entreprises que j'ai connu historiquement plutôt géré par l'email. Voilà, donc j'ai pas d'autres tips là-dessus, mais écoute, si toi tu en as, je suis preneuse.
Bon, il y en a pas mal, mais on manque de temps, donc je passe aux questions suivantes. En dehors de Le Bon Coin, est-ce qu'il y a une autre boîte qui t'inspire et que tu aurais aimé que tu te verrais bien diriger?
Écoute, je sais pas, non, parce que pour l'instant la dream boîte c'est Le Bon Coin, mais non, il y a plein de boîtes que je suis évidemment dans l'univers de la tech. Je suis super admirative de ce que fait Jonathan Cherki chez Content Square. Par l'IA Capital, évidemment, je suis plein de boîtes comme Green Got, par exemple sur la banque Green, qui est une boîte qu'a faite Maud Caillot, que je trouve
qui sont passés à ce micro.
Ouais, okay. Exactement. Ou Nicolas Daudifré chez Encore Store, qui essaye de promouvoir le commerce de proximité par sa plateforme, sa marketplace pour les pros. Voilà, donc il y a plein d'initiatives que je trouve hyper intéressantes et des entrepreneurs que je suis comme ça pour voir quelles sont les trajectoires et les bonnes idées qui développent.
Et justement, des gens, est-ce qu'il y a une personne que tu as pu croiser dans ta carrière qui t'a marqué et qui t'inspire particulièrement?
J'ai pas une personne, je suis plutôt multi. Moi, je dirais sur ce qui me nourrit, ce qui m'aide, ce qui me forge, c'est ces différents réseaux que j'ai rejoints.
Ces échanges, ces rencontres, au contraire, multiples plus que individuelles.
Honnêtement, j'essaie vraiment. Là, c'est un peu plus difficile en ce moment, mais je suis sollicitée souvent par des femmes, pour être honnête, sur des cafés pour les aider, les mettre en relation. Ce que j'essaie de beaucoup faire, parce que je trouve que voilà, quand toi ça va bien, c'est bien aussi de tendre la main à des gens qui sont dans d'autres situations. Et puis je vais pas pour ça, mais je trouve qu'il y a toujours un retour sur investissement de dingue d'investir dans l'humain, où à un moment donné tu vas avoir besoin d'un truc et t'as toujours rencontré la personne qui finalement va t'aider sur tel autre truc. Et je trouve que voilà, tisser ces connexions et ce réseau, c'est fondamental, et qu'en France on le fait pas assez. Et c'est vraiment le conseil que je donne à chaque fois aux plus jeunes, de commencer très tôt à faire ça et d'être moteur. C'est-à-dire que moi, comme c'était pas un truc où je me sentais d'aller à des endroits avec ta coupe de champagne où t'es pas forcément à l'aise, on a pris le parti avec une amie de fonder notre propre premier réseau et de faire de la cooptation de femmes avec qui on avait envie de passer du temps. Mais voilà, d'être moteur et de cultiver ces réseaux-là, et il en existe des tonnes.
Et en parlant de femmes avec lesquelles t'as envie de passer du temps, tu me recommanderais qui à ce micro, une personne qui aurait un parcours un peu inspirant dans le monde entrepreneurial ou tech, mais qui a quelque chose à raconter que tu trouves assez captivant?
Écoute, je pourrais te conseiller, je sais pas si elle est déjà passée, mais la fondatrice de Bon Goût.
Non.
Qui s'appelle Claire, dont le nom m'échappe, mais qui est, je trouve que c'est qui est une super boîte qui justement est à la fois tech et retail et développe l'univers de la maison en faisant à la fois du picking de produits, vraiment une curation intéressante, de la production de ses propres produits et du vintage. Et je trouve qu'elle a le bon business model et elle commence à très bien performer. Voilà, c'est une jeune boîte, mais je trouve qu'elle est hyper intéressante.
Eh ben, c'est bien noté. Est-ce que il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile jusqu'ici ?
Écoute, mon premier manager quand j'arrive chez Casino, qui était vraiment une figure, qui quand même m'a marqué en tant qu'individu. Jean Duboc, il s'appelait. C'était vraiment voilà une figure de du retail. Il nous offrait à chaque nouvel arrivant les 4 accords Toltec. Et écoute, c'est un livre auquel je me référence assez souvent, notamment de rien prendre personnellement. C'est le plus difficile, je trouve, des 4. c'est vraiment, franchement, c'est vieux comme le monde. Mais de temps en temps, je trouve que c'est bien de revenir aux sources, de voilà, ne pas faire de suppositions, que ta parole soit impeccable, faire toujours le meilleur, donner le meilleur. Et je trouve qu'à la fin de la journée, quand tu respectes ces 4 idées, finalement, t'es assez épanoui et au moins si tu vois t'as pas réussi, tu t'es planté. Quand t'as fait le maximum, je trouve que c'est plus difficile pour réagir, rebondir, se relever et repartir.
Bon, tu peux nous dire dernière question quelque chose sur toi que les gens seraient surpris d'apprendre.
Qu'est-ce que je peux te dire? Écoute, j'ai un rituel qui me sauve, mais tous les dimanches, je me couche à 20h30.
Donc c'est possible.
Donc c'est possible. Écoute, la semaine, je dors pas beaucoup, mais j'adore dormir, c'est ma passion, je pense numéro une. Et j'ai la chance d'avoir un sommeil réparateur. Franchement, c'est une plaisanterie. Et à la fois, je pense que ça drive aussi l'énergie qu'on peut avoir, évidemment, au quotidien. Et donc, le dimanche, je me couche même avant mes enfants. Et c'est mon soir à moi. Et je me fais une nuit entre 10 et 12 heures et qui me permet de tenir toute la semaine.
De tenir toute la semaine et de recharger les batteries jusqu'au prochain dimanche. Eh ben merci Amandine pour ces feedbacks et ces partages, c'était hyper inspirant. Merci, hâte de voir la suite de ta carrière et la suite pour Le Bon Coin aussi avec tous ces mouvements dont on parle. À bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup.
Merci. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.